Actes Sud présente Le Somnambule de Lars Kepler. Traduit du suédois par Marianne Segol. Lu par Éric Chantelose.
Actes Sud Audio.
Le sommeil et le rêve nous ont toujours accompagnés, comme deux amis inséparables et énigmatiques. Deux spectres qui nous guident dans les ténèbres. Dans la mythologie grecque, le dieu du sommeil, Hypnos, vit dans une grotte obscure, un sanctuaire de silence où les pavots fleurissent au bord de la rivière de l'oubli. Quand Hypnos dort, c'est son fils, Morphée, le dieu des rêves, silencieux et impassible, qui veille sur lui. Aujourd'hui, la science divise le sommeil en deux phases distinctes, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil profond est un océan calme, où les vagues électriques du cerveau se font lentes et puissantes. Mais à deux ou trois reprises durant la nuit, ces vagues se transforment, deviennent plus rapides, presque aussi vives que celles d'un esprit éveillé. C'est le sommeil paradoxal, qu'on appelle MOR, pour mouvement oculaire rapide. La parasomnie désigne l'ensemble des troubles dans lesquels le cerveau se situe à mi-chemin entre sommeil et éveil. L'un des mieux documentés, l'un de ceux qui s'immiscent le plus fréquemment dans nos vies, est le somnambulisme. Il touche environ 5% des enfants, mais reste bien plus rare chez les adultes. Comme la plupart des parasomnies, les épisodes de somnambulisme se produisent généralement lors de la phase de sommeil profond et ne durent que quelques minutes. Mais il existe des cas bien plus inquiétants. Ceux où l'individu erre dans la nuit durant la phase de sommeil paradoxal. Dans ce cas, ce sont les rêves eux-mêmes qui guident les actions. Comme enfiler des vêtements, déverrouiller une porte, quitter la maison. Prologue. La lumière argentée scintille dans les cercles agités des flaques d'eau, dans les gouttes qui tombent du toit, dans la bassine de zinc pleine à craquer. Sa mère se tient là, sous la pluie, sur le terrain gravillonné entre la vieille voiture rouillée du grand-père et le cabanon à bois. Ses cheveux blonds sont trempés, son soutien-gorge et son jean assombri par les torrents d'eau. Du sang coule de ses plaies, aussitôt emporté par la pluie. Ce matin, elle s'est tailladé le corps, puis elle a jeté le couteau par terre dans l'entrée avant de quitter la maison pieds nus. Le garçon regarde la porte d'entrée, observe la poignée maculée de sang, le papier peint cabossé, le plancher en bois où gît encore le couteau et une bouteille vide d'alcool fort, posé près des bottes de marin de son père. Toute la nuit, sa mère s'est adressée au jerrican d'essence dans la voiture, à la hache dans le cabanon, leur déversant sa colère, puis implorant, les yeux levés vers le ciel, que le père revienne. Le garçon retourne dans sa chambre et se poste à la fenêtre. La pluie tambourine de plus en plus vite sur le toit en tôle. La gouttière pleine de feuilles mortes déborde. Le câble en acier, recouvert de plastique, qui entoure son poignet gauche, court le long d'une barre fixée au plafond. Ce fil lui permet de se déplacer librement dans sa chambre. Il peut s'allonger sur son lit, se tenir à la fenêtre ou s'asseoir par terre avec ses jouets. Il a un troll en caoutchouc, avec des cheveux jaune flamme pointus comme une langue de feu, une panthère rose flexible, et une voiture de police américaine qui clignotait en bleu la première semaine. Lorsqu'il est attaché, il peut aussi se rendre dans le vestibule ou aux toilettes, mais pas jusqu'à la porte d'entrée. S'il avance davantage, le câble se serre autour de son poignet et la douleur se répand dans tout son bras. Mais il parvient à voir la cuisine avec son sol défoncé. Sa mère va chercher la hache dans le cabanon ressort sous la pluie et se tient tête basse près de la pile de pneus et de blocs moteurs rouillés. La lumière de la grande enseigne néon du service de tracteur fait briller les gouttes de pluie derrière elle. Elle lève le menton, se tourne lentement, le pointe du doigt et se dirige vers la maison à grands pas.